Légion vue d'en bas.
Vous êtes sur la première, il est 19h19 et nous allons nous pencher sur la condition d'otage, toujours en votre compagnie, Fabien Lundberger. Alors la condition d'otage, on l'imagine bien, une situation très difficile à vivre, personnellement, intimement, et qui pose une foule de questions sur la manière dont on gère émotionnellement, spirituellement, une telle situation. Comment est-ce qu'on fait pour pas devenir fou, pour ne pas perdre espoir aussi? Et comment ensuite on s'en sort? Comment est-ce qu'on s'en remet? Alors, on va parler de ces questions-là, mais on va commencer par entendre le témoignage d'un otage, d'un couple d'otages même, pour être plus précis, qui revient sur leur captivité. Comment ça s'est passé?
Oui, en effet, c'est une épreuve qui est encore récente, en tout cas pour l'un d'entre eux, Daniel Larib, qui a été libéré, c'était fin octobre, après 3 années de captivité. Mais alors, s'il témoigne à deux ce soir, c'est que son épouse, Françoise Larib, a passé la première partie de sa captivité avec lui durant 5 mois avant d'être séparés.
Alors on précise, ça se passait au Niger, ils ont été retenus en otage au Niger.
Oui, alors c'est le groupe terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, qui les a kidnappés, c'était en 2010. Daniel Larib, évidemment, pour ce groupe, représentait une cible de choix occidental, français, employé d'une entreprise minière, Areva. Alors ça, c'est pour le contexte, on va dire, géostratégique de cette prise d'otage, mais on ne va pas s'arrêter tellement là-dessus. Ce qui a intéressé Aline Bachofner et Cyril Desprats, qui ont rencontré Daniel et Françoise Larib à la fin de l'année dernière, c'est de savoir effectivement comment est-ce qu'ils ont fait pour tenir, et puis aussi ce que cette épreuve a changé dans leur vie, qu'est-ce qu'on fait de son temps lorsqu'on est à la merci de preneurs d'otages, quelles sont les échappées possibles dans une vie dont on ne dispose plus vraiment. Mais bien sûr, commençons par le commencement. Françoise Larib et Daniel Larib racontent comment s'est passée cette fameuse nuit. C'était un 16 septembre 2010.
C'était très tôt, 3h20 exactement, puisque j'ai regardé le réveil. Hein, j'ai entendu un bruit formidable, énorme. En fait, la porte volait en éclats. Daniel s'est levé et puis il a été tout de suite embarqué, c'est ça, hein, et jeté dans une Toyota, en fait, l'arrière de la Toyota. Et puis très rapidement, ça se joue en quelques secondes, hein, tout ça, on vient me chercher. Et voilà, je rejoins Daniel Daniel a eu cette phrase formidable. On était tellement sidérés, il ne savait pas que me dire, etc. Il me dit simplement « ne t'inquiète pas ».
Vous avez tout de suite compris ce qui se passait ?
Oui, très rapidement. Au début, je pensais que c'était le chat qui avait fait tomber quelque chose. Puis, une seconde après, je me suis dit « ça y est, il y a quelque chose, on vient nous enlever ». Et puis, je me suis approché du séjour. Et là, j'étais dans le couloir, la porte s'est ouverte, et il y a Abou Zaïd qui était là en personne, qui m'a tiré par le bas. Je voyais, il était encadré par 2 personnes d'une taille normale, et lui était un peu plus petit, et donc j'ai vu ces 3 personnes là, dont Abou Zaïd, que je ne connaissais pas. Hein. Et maintenant, je m'en souviens, sa taille, et puis l'expression de ses yeux, qui m'a tiré et m'a embarqué. Et puis après, tout s'est déroulé très très rapidement.
J'étais complètement sidérée, hein, déjà, moi j'ai une espèce de capacité à nier les choses quand elles sont trop violentes et trop fortes, ce qui me permet d'être très calme.
Vous avez eu peur ?
La peur, je ne sais pas si vraiment on l'a éprouvée. L'angoisse,
oui. Oui, plutôt de l'angoisse. C'est l'inquiétude, pas... l'angoisse, mais voilà. De la peur, non.
Moi je dirais peur de se dire que ça risque d'être... énorme comme situation, mais pas une peur
d'être exécuté.
Non, on ne pense pas. Non, pas la peur d'être exécuté, mais d'être effectivement pris en otage, et puis après avec toute l'incertitude qui est liée à la prise d'otage.
Alors vous avez été retenu avec 3 autres otages les premiers temps. Comment s'est organisée la vie?
En fait, au début, on était 7, mais nous sommes restés 7 pendant 12... Non, c'est le 15e jour qu'on a été séparés. Je dis, le 12e jour, c'est une date aussi importante. C'est la première fois qu'on se lave au bout de 12 jours. Donc, et le 15e jour, on est séparés en 2 groupes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a 4 personnes, dont Marc et Pierre, Jean-Claude et Alex, qui ont été d'ailleurs libérés en même temps que moi. Et de l'autre côté, Daniel, Thierry et puis moi.
Et où est-ce que vous vivez ?
Mais à côté de la voiture, enfin, on fait des cabanes, on essaie de s'abriter un maximum du soleil pour la journée, et puis le soir, on tire une couverture par terre et puis on s'allonge et puis on dort.
Comment se passait une journée? Racontez-nous.
C'est très très long. C'est que les journées peuvent durer un siècle, mais en revanche, les semaines défilent très 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 rapidement. C'est ça qui est très curieux, cette notion du temps qui bascule.
Alors quels étaient vos rituels pour faire passer le temps?
Quand on est ensemble, on essaie de structurer le temps et puis c'est rythmé par le thé. Lorsqu'on a pu faire du feu, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est au 50e jour qu'on fait à peu près, oui, qu'on a le droit de faire du feu. Et ça nous permet de rythmer les journées, de se retrouver avec Thierry, parce que l'on essaie aussi d'avoir des vies un tant soit peu autonomes, malgré tout, parce que bon, c'est pas facile ni pour lui, ni pour nous, mais je pense que ça a été très difficile pour lui aussi. Donc on essaie de rythmer ses journées avec autour du thé, du feu, et puis après avec Daniel, eh ben, on se construit un monde un petit peu en parallèle, avec des exercices de mémoire, de jeu, pas de rôle, mais de projection dans l'avenir, d'essayer de se souvenir des choses particulières, en fait.
Quoi, par exemple?
C'est très variable, hein, mais l'exercice qui nous amuse le plus, parce que ça fait appel à des tas de notions, c'est le voyage idéal. Voilà, alors ça fait appel autant à des notions, j'allais dire, géographiques, que culturelles, que sociologiques, que littéraires, financières aussi. En fait, on compte les jours, on compte le...
Mais l'idée, c'est quoi? C'est de s'évader? Il faut s'évader de là où on vit?
Complètement, oui, il faut, moi, pas que s'évader, je pense qu'on a cet exercice, ce devoir presque de faire en sorte que le temps passe et que l'on ne soit pas anéanti par ce temps et cette qui passe. Je crois qu'il y a ce côté-là. Et puis surtout, Daniel, cette volonté de me sortir aussi de l'angoisse de la séparation avec nos filles, par exemple. Où on se tient la tête hors de l'eau.
Oui, je pense qu'on se tient mutuellement la tête hors de l'eau. Par exemple, elle va me raconter toute l'histoire de sa famille, de ses frères et sœurs, de A jusqu'à Z, depuis la naissance jusqu'au temps actuel.
Vos filles, par contre, c'était un sujet que vous n'abordiez pas beaucoup?
Non, parce que ça nous renvoyait trop à notre situation
de séparation.
De séparation, hein, oui. Oui. Non, mais bon.
Vous l'avez dit, Françoise, vous avez été libérée 5-6 mois après le début de votre détention. Comment ça s'est passé?
Très très rapidement, hein. À midi, ce qu'on appelait des émissaires vient discuter avec Daniel et Thierry. Et puis à ce moment-là, Daniel me dit, ben, écoute, viens, on a quelque chose à te dire qui te concerne. Et c'est là où cet émissaire nous dit, ben, écoutez, Françoise ou madame, je ne sais plus, enfin bon, peu importe, vous allez être libérée. Je lui dis, mais hors de question que je parte sans Daniel, sans Thierry, c'est les trois ou rien du tout. Et puis on en discute après avec Daniel, et Daniel me dit, de toute façon, on te demandera pour ton avis, c'est clair. Et puis, de toute façon, il faut que tu y ailles, témoigner, puis pense à nos filles, etc. Et donc, c'était vers les midis à peu près. On n'a pas de montre, mais on imagine ça. Et dans l'après-midi, vers les 3h30, 4h, à la fin du jour, eh ben, ils viennent me chercher. Mais ça s'est passé quoi? En une minute, deux minutes? Très rapidement. Je n'ai pas le temps de dire au revoir à Thierry. On est complètement tétanisés aussi. Là, en revanche, je pense que c'est la période la plus douloureuse que l'enlèvement.
Pourquoi?
Mais je laisse Daniel, on n'a pas le temps de se préparer psychologiquement à cette séparation. Je suis à la fois dans, vous savez, c'est très ambigu, hein, à ce moment-là. Vous êtes dans le bonheur et dans la culpabilité, dans l'angoisse de laisser les autres, quoi. Donc c'est...
Vous, Daniel, comment vous l'avez vécu?
Mais avec un gros pincement au cœur. C'est vrai que j'étais surpris, il fallait faire très vite, on n'a même pas eu le temps de s'embrasser. Elle est montée, on l'a fait monter dans l'avant d'une voiture, et puis on s'est à peine fait coucou de la main. Et puis voilà, puis elle est partie. Et là, je suis resté sur place pendant 5-10 minutes à regarder, pétrifié, oui, c'est vrai. Et puis, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est un prélude peut-être à notre libération. Donc, notre libération va suivre d'ici un ou deux mois. Et puis voilà, donc bon. Mais pendant 3 jours, ce pincement au cœur, cette douleur. Et puis, on est revenu sur ce camp plusieurs fois. On changeait de camp de temps en temps, on est revenu plusieurs fois. Et chaque fois, ça me remémorait cette situation, là, ce départ de Françoise. Et pendant une heure, j'étais mal à l'aise.
Avant que Françoise s'en aille, vous lui avez dit « je peux tenir encore 6 mois, disons 8 ». Françoise, comment est-ce que vous avez vécu avec cette parole-là ?
Oui, en fait, je dis à Daniel « résiste ». Parce que ça, c'était le terme quand même qui est important chez nous. Et il me dit, de toute façon, moi, tu sais, je peux tenir avec les observations, la nature, enfin, etc., etc. Je peux tenir 6 mois. Et puis, il me dit 8 mois même. Bon. Et puis, je pars avec ça, quoi. Et avec cette volonté de résistance qu'exprime Daniel. Et puis, de toute façon, moi, je n'ai jamais douté de son retour. Mais en même temps, il faut vivre quand même avec ça au quotidien.
Et comment on vit avec ça justement quand on n'est plus avec la personne à des milliers de kilomètres, en d'abord, sachant ce qu'il vit ?
Oui, d'abord je retrouve nos filles. Alors il faut aussi imaginer cet immense bonheur pour elles et pour moi. En même temps, c'est vrai que je me sens amputée. Il y a une phrase de nos filles qui est... Mais je te la laisserai dire.
Nos filles disent, ça y est, maintenant on a retrouvé Françoise.
Oui, ils ont libéré papa et maman.
Papa et maman, oui, c'est ça, exactement.
Voilà, donc ça peut vous résumer.
Vous avez vécu cette situation vraiment exceptionnelle, dramatique, ensemble pendant 5 mois. Par la suite, vous êtes retrouvés seuls, Daniel. Comment vous avez réorganisé la vie au quotidien ?
Les premiers temps, ça a été quand même assez difficile. Il y avait toujours en arrière-plan ce départ de Françoise. Et là, je me suis dit, il faut que je vois comment essayer de faire défiler aussi vite que possible les journées. Et j'avais remarqué que certaines journées où je m'étais astreint à un programme bien précis, elle se déroulait beaucoup plus vite que les journées où je me dis, demain, je ne vais pas me fixer de programme.
Comment on se fixe un programme quand on n'a rien à faire ?
Non, mais on en trouve des tas de choses.
Par exemple ?
Il y a déjà la construction de nos cabanes, l'aménagement du sol où on va s'étaler la nuit, observer les traces d'animaux, par exemple. On ne jette pas sa couverture n'importe où. Quand on arrive sur un lieu, on regarde un endroit qui est le plus meuble possible, mais en même temps, on regarde s'il y a des traces de serpents, s'il y a des traces de scorpions, s'il y a beaucoup de traces d'animaux. Ça veut dire que ce sont des traces de passage. Et donc, la nuit, ça peut être un danger pour nous. Donc déjà, ça occupe. On fait une analyse du terrain. Puis après... Je veux dire, il y a de tout, l'observation des plantes. Et puis, j'ai fait beaucoup de tests de plantes sur la santé.
Mais ça veut dire que vous êtes dans des choses très concrètes, très quotidiennes. Et en même temps, votre esprit, il est où ? Il est là ou il est ailleurs ?
Très rapidement, on peut décrocher et revenir sur place. Si on observe, par exemple, un comportement assez inédit de nos gardes, ça peut être lié à un affolement, parce qu'ils pensent qu'il y a un danger qui arrive. Ça peut être l'armée malienne, ça peut être des groupes rivaux, par exemple des contrebandiers, des passeurs de drogue, tout ça. Il y a souvent des rixes entre ces groupes, et donc il y a un petit peu l'affolement. Donc déjà, on décroche parce qu'on sent qu'il y a une tension, ou ça peut être parce qu'il y a une situation comique qui se passe. Il y a un jeune qui est en train d'apprendre à conduire, hein, et puis en reculant, il rentre dans un arbre. Alors bien sûr, on est rattrapé par la réalité, et puis après, quand tout c'est fini, on se remet à l'extérieur.
Vous l'avez dit, vous avez été quasiment sans nouvelles l'un de l'autre pendant 2 ans et 8 mois. Vous n'avez reçu qu'une lettre, Françoise.
Oui.
Comment est-ce qu'on conserve le lien ?
Il n'est pas rompu le lien, en fait. Il y avait une superbe phrase d'un théologien qui s'appelle Bonhoeffer, un peu un théologien protestant, et qui disait que c'était finalement une chance parce que cette absence maintenait quand même le lien, hein, malgré tout, parce qu'on reste lié par l'absence malgré tout. Simplement, le lien, il est maintenu aussi en avançant, en refusant de penser que Daniel ne reviendra pas. J'ai jamais pensé, et ça pour moi c'était quelque chose d'évident qu'il allait revenir.
Est-ce que la prière a pu être un lien ?
Oui, sûrement, mais c'était oui et non, je ne sais pas comment dire ça. Moi, je me chantais aussi quand on était en détention, ce cantique, c'était un vrai leitmotiv. Dieu sait ce qu'il te faut, quand tu confies en Dieu ta route. Après, bon, partant de ça, si vous voulez, on se remet entre les mains. et puis voilà, quoi.
Daniel Larribe, il y a beaucoup de personnes qui ont prié pour vous pendant toutes ces années, tous ces mois. Est-ce que vous l'avez senti ? Ça vous a porté ?
Oui, non, je le sentais, notamment le jour du Musée du Désert, le premier dimanche de septembre, où il y a un très grand rassemblement protestant à Mialet, le village où on habite. Et là, il y a, je ne sais plus, jusqu'à 10-12 000 protestants qui viennent de toute la France. Et puis c'est un culte en plein air, c'est merveilleux. Et ça s'appelle le désert, et puis moi j'étais aussi dans le désert. Et puis là, ce jour-là particulièrement, il y a vraiment une communion avec la communauté protestante, parce que je revis toute la journée. C'est-à-dire que là, ce jour-là, je me revois prendre le petit déjeuner, accueillir notre famille juste avant le culte, et puis on va à pied jusqu'au culte, et puis j'assiste au culte, et puis après, c'est le repas, après le culte en famille et tout, et puis je déroule toute la journée.
Donc vous l'avez vécu en synchronicité, vous tout seul, oui, avec vos ravisseurs, oui. Perdus dans le désert du Mali. Et vous, Françoise, vous saviez, vous imaginiez qu'il vivait ce moment-là aussi ?
Je pensais qu'il avait bien maintenu il mesurait le temps, il savait quel jour on était. Donc oui, il était là, il était avec nous, je savais qu'il était là.
Françoise Larribe, est-ce que vous avez retrouvé votre mari comme avant ?
Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Oui, c'est Daniel, et puis y a quand même une dimension différente.
Qu'est-ce qui a changé ?
Peut-être une dimension, ça peut vous paraître bizarre, mais plus serein. Hein, comme si 3 ans de de désert, de solitude, lui avait permis un petit peu de revenir sur des choses, de se poser, voilà, une écoute différente aussi.
Vous sentez plus serein, Daniel Larribe ?
Oui. Parce qu'il y a des situations où je me serais un peu énervé, disons. Puis maintenant, je les accepte. Je les fais remarquer gentiment.
Oui, je pense que on prend de la distance, de toute façon. Et on relativise tellement après.
Est-ce que vous retournez parfois en pensée au désert ?
Oui, ça m'arrive souvent. Je veux dire, par exemple, une fois, à Alès, j'ouvre la porte sur notre mezzanine, j'ouvre une porte pour regarder à l'extérieur. Et puis, je vois une constellation que je regardais souvent dans le désert, qui a la forme d'un quadrilatère avec à l'intérieur une flèche. Et puis cette constellation, cette flèche donne en gros la direction nord. Et c'était une des constellations que je suivais quand on a fait notre escapade et qu'on circulait de nuit, on me dirigeait avec cette constellation. Alors j'ouvre cette fenêtre et puis, bam, juste en face de moi, à cette heure-là, elle était là, juste là. Et puis il y a un avion de ligne qui passe, et puis là ça me rappelle quand Françoise était là et qu'on voyait un avion passer au-dessus de nous, on se disait, ben, où qu'il aille cet avion, on le prendrait bien.
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez à vos ravisseurs ?
Moi, je repense à ces gens que j'ai côtoyés pendant 5 mois et demi, hein, Et notamment aux très jeunes, je me disais, mais dans quoi ils s'engagent ? Ils s'engagent dans une, je ne sais pas si on peut appeler ça une aventure, mais dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants, parce qu'ils sont sûrement manipulés par d'autres forces. Et ça, pas tous, hein, mais certains d'entre eux, on avait quand même un peu de compassion pour eux, de la compassion. Voilà, alors je pense plutôt à eux, à ces existences qui sont embarquées dans un je ne sais quoi, après les autres.
Et vous, Daniel, parce qu'on peut imaginer qu'avec l'opération militaire française, beaucoup de ces gens sont morts. Comment est-ce que vous y pensez aujourd'hui ?
Je pense plutôt aux populations qui ont subi des effets collatéraux. Comme François, peut-être à ces jeunes qui se sont laissés embrigader. Et puis, pour les autres, j'ai lu un document qu'ont retrouvé les Américains dans le bunker de Ben Laden, où ils parlaient des otages français, de la façon dont... Et ça, on était vraiment de... pas de la chair à canon, mais...
De la marchandise.
Oui, de la marchandise. Si on se dit... on a échappé belle. On était rien du tout, et donc on était là. Mais... bon, ben, attendez, si vous voulez les tuer... Enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est si vous voulez les tuer, attendez la fin des opérations françaises en Libye. Si vous pouvez les garder, alors on était vraiment...
De la marchandise.
De la marchandise, hein. Ça fait froid dans l'eau.
Ça fait froid dans le dos, le témoignage de Daniel et Françoise Laribe au micro de Cyril Desprayes, Aline Bachofner. Un couple qui a été otage de Al-Qaïda au Maghreb islamique, au Niger, elle pendant 5 mois et lui pendant 3 ans. Fabien, une rapide question, il fait référence à une constellation qu'il observait, un quadrilatère avec une flèche dedans. Qu'est-ce que ça peut être ?
Alors, je suspecte que c'est Orion, effectivement, avec cette forme-là.
Très bien. Alors, c'est un témoignage fort qui met en lumière combien une prise d'otage peut bousculer, peut chambouler les valeurs de quelqu'un, et que ça oblige au fond quand même à réfléchir au sens de sa vie, au sens de la vie.
Bah oui, on sent qu'ils ont eu tout le loisir, à leur corps défendant bien sûr, de réfléchir à ces questions. Et, bah, ce ne sont pas là, effectivement les seuls otages à vivre cette épreuve. Alors, chez certains, ça peut prendre des formes parfois très spectaculaires. On se souvient de la ferveur catholique dont Ingrid Betancourt, qui était otage des FARC en Colombie, a donné témoignage lors de sa libération. C'était en juillet 2008. Hein. Je pense que vous vous rappelez cette image où elle est à genoux, en prière, chapelet entre les mains, sur le tarmac de l'aérodrome de Bogota.
Alors justement, est-ce que c'est rare, ça, des otages qui donnent une dimension religieuse ou qui voient dans leurs épreuves une dimension religieuse ?
Alors à ma connaissance, il n'y a pas de statistiques sur la question, hein, mais ce qu'on sait, c'est qu'Ingrid Betancourt n'est pas la seule à avoir donné un sens religieux explicite à son expérience. Le journaliste Roger Hawke, agnostique, pris en otage durant 11 mois au Liban, avait lui aussi donné un sens explicitement religieux à son épreuve. Puis on a aussi, par exemple, ce récit de Georges Malbruno, journaliste lui aussi, athée, détenu pendant 4 mois, c'est en Irak, qui raconte que ses pensées sont allées vers Dieu au moment où on lui a pointé un pistolet sur la tempe. Alors, bon, quelques exemples, mais ça ne veut pas dire du tout que les otages reviennent religieux et mystiques au retour de leur captivité, loin de là. Mais au moins, à minima, ça montre que cette épreuve induit une réflexion assez sérieuse sur, on va dire, la hiérarchie des valeurs dans sa propre vie.
Et puis, elle a compris, hein, Daniel et Françoise Laribe ont un arrière-plan religieux qu'ils ont pu maintenir. Mais pour peut-être interroger plus loin cette question du bouleversement des valeurs, justement, vous nous proposez une interview.
Oui, je me suis entretenu avec le docteur Frank Gardenbrech. Il est hypnothérapeute, médecin urgentiste français, mais surtout il est l'auteur d'un travail sur l'adaptation psychologique aux prises d'otages, travail initié dans les années 90, mais qu'il poursuit en suivant de près la trajectoire d'une trentaine d'otages. Alors, je lui ai demandé précisément face à cette diversité des expériences, celle des Laribes, celle d'une Ingrid Betancourt, avec sa conversion mystique, s'il y avait, on va dire, un parcours spirituel typique de l'otage.
Alors en fait, comme très souvent en psychologie, on peut dire que tout est possible. Et en fonction du profil initial de la personne, qui peut être quelqu'un de très orienté sur la spiritualité ou au contraire quelqu'un de très athée, voire anticlérical, tout est possible. Quelqu'un qui a déjà une grande spiritualité peut la voir être renforcée par la prise d'otage, comme on peut voir cette spiritualité s'effondrer par la sensation que le Dieu en laquelle la personne croyait n'a pas su la protéger et que donc il y a une perte de croyance.
Au fond, docteur Gardenbrech, cette perte de croyance, est-ce qu'elle est déjà la première caractéristique de la prise d'otage ?
Alors oui, tout à fait. Nous avons tous un sentiment de base qui suit de l'invincibilité, de l'immortalité, même si c'est pas conscient, on n'y pense pas tous les jours, mais on se croit tous invincibles et immortels. Et d'ailleurs, les accidents, les maladies n'arrivent qu'aux autres, c'est bien connu. Et les prises d'otages, c'est exactement la même chose, sauf que le jour où vous êtes pris en otage, vous vous rendez compte que tout ce que vous pensiez vous protéger, c'est-à-dire un dieu pour ceux qui y croient, l'État pour tout le monde, l'entreprise pour laquelle vous travaillez éventuellement, qui devait vous protéger, ont échoué dans cette mission. Et il y a comme une phase, on va dire, presque d'effondrement dans les croyances qui fait que la personne peut se retrouver temporairement seule face à son nouveau statut d'otage, isolée et ne pouvant plus se raccrocher finalement qu'à ses ravisseurs.
Ce qui veut dire que dans un second temps, il y a une sorte de rebond et réinvestissement dans quelque chose de spirituel ou de ce type-là ?
Alors effectivement, tout peut se produire ensuite pendant la prise d'otage, c'est-à-dire que ça va déjà dépendre des conditions, s'il y a de la violence physique ou psychique ou pas pendant la prise d'otage, ça va dépendre des conditions de détention. Est-ce que l'otage est tout seul dans une pièce attaché à un radiateur au fond d'une cave ou est-ce qu'il est en otage en groupe avec des amis, de la famille ou des collègues professionnels? Donc tous ces critères-là vont influer sur ce qui va se passer, mais la personne peut effectivement se réfugier dans sa spiritualité s'il n'a rien d'autre à faire, par exemple, et qu'il est isolé tout seul dans une pièce. Il va pouvoir accroître sa spiritualité, il va pouvoir s'isoler de la réalité dans laquelle il est pour prier, pour renforcer ses convictions. S'il est retenu en groupe et qu'il était au départ athée, sans conviction religieuse particulière, il peut, à l'écoute de partenaires de détention, finalement trouver un certain sens à la spiritualité et finalement adhérer à une croyance ou une autre, quelle que soit la religion, à laquelle il va être exposé, on va dire, peut-être pour la première fois de sa vie.
Mais là encore, ça n'est pas un automatisme. Ça peut ne pas se produire. Tout le monde ne devient pas mystique à l'occasion d'une prise d'otage.
Voilà, absolument. Les gens vont, selon un peu leur personnalité, selon les circonstances et ce qui se passe autour, pouvoir accéder à la spiritualité ou au contraire, choisir un autre moyen, on va dire, d'évasion. On connaît bien ça maintenant grâce à l'hypnose ericksonienne qui a mis en évidence et qui a pu démontrer ces états de conscience modifiés qui sont quelque part entre le sommeil et l'état de veille, les plus proches de l'état de veille, dans lesquels tous, autant que nous sommes, que nous soyons pris en otage ou pas, peu importe, mais tous, au fil de notre journée, nous passons par des moments où notre esprit décroche, s'évade, et pendant une prise d'otage, c'est ce qui peut se passer avec un patient qui va s'évader. Alors, pourquoi pas dans la spiritualité, mais il peut s'évader aussi dans des souvenirs agréables, de choses qu'il a vécues auparavant, dans des projets d'avenir, pour justement se donner un espoir dans un avenir. Ça peut être aussi des pensées sur son travail, sur ses amis, sa famille, ou pourquoi pas sur un monde imaginaire qui va lui permettre de se protéger de ce qu'il est en train de vivre.
Se raccrocher à quelque chose peut aussi vouloir dire se raccrocher à la cause politique, idéologique ou religieuse des ravisseurs.
Alors exactement, c'est ce qui a été largement décrit sous l'appellation du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire une empathie progressive de l'otage pour son ravisseur, en particulier quand l'otage justement a connu cette espèce d'effondrement de croyance initiale qui fait que finalement son entreprise, sa nation, sa religion n'ont pas su le protéger. Il se retrouve en situation de dépendance vis-à-vis du ravisseur, puisque c'est le ravisseur qui l'autorise ou pas à manger, boire, dormir, avoir une hygiène, aller aux toilettes. Donc il en est dépendant, et si une communication s'établit entre otage et ravisseur, finalement l'otage peut finir par adhérer plus ou moins, et parfois plus que moins, aux valeurs de son ravisseur, avec, on l'a vu, d'anciens otages qui ont pu épouser un ancien ravisseur, qui ont pu payer les frais de justice d'anciens ravisseurs, qui ont pu adhérer à leur cause politique, religieuse. C'est un nombre de Stockholm qui, par ailleurs, peut être aussi un mode de protection pour l'otage.
Alors vous-même avez connu plusieurs dizaines d'otages, d'anciens otages, vous en avez eu plusieurs en thérapie. Dans le fond, dans leur parcours, les rituels, notamment les rituels religieux, mais les rituels en général, quelle place est-ce qu'ils prennent au cours de la détention ? Quelle importance est-ce qu'ils ont ?
Alors, lors d'une détention, on a une perte de ses repères habituels, puisqu'on est dans un lieu hostile, inconnu. Rétablir des repères, c'est quelque chose dont l'être humain a besoin pour savoir où il est, pour savoir comment il vit. C'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup dans la thérapie par l'hypnose. En chaque début de séance, on fait prendre des repères aux patients qu'ils doivent retrouver à la fin de la séance. Donc les repères sont quelque chose dont on a tous besoin. Donc au fil de sa détention, un otage peut choisir de se créer de nouveaux repères, alors spatio-temporels, quand c'est possible, puisque les terroristes savent aussi que pour avoir de bons otages, l'idée c'est de les dépersonnaliser, d'entraîner une déréalisation, c'est-à-dire une perte de l'alternance jour-nuit, une perte de ses repères justement, pour que l'otage soit soumis. Mais comme défense, l'otage, lui, peut recréer de nouveaux repères par rapport à ses valeurs, ses croyances, ses références d'avant. Et il va créer ses nouveaux repères dans l'espace qu'on lui donne, alors qu'il peut être sa cellule, qu'il peut être aussi son imaginaire, parce qu'il parvient à s'échapper dans ce phénomène de transe spontanée qui va se produire.
Y compris d'ailleurs dans des sortes d'exercices imaginatifs. Je crois que vous aviez un exemple par rapport à un otage au Liban.
Tout à fait. Alors, c'est un otage qui a été retenu pendant 2 ans, enchaîné à un radiateur au fond d'une cave. Quelqu'un qui avait une vie active très importante avec un planning surchargé, qui en fait n'avait le temps de rien sauf de travailler. Et puis le jour où il s'est retrouvé enchaîné à son radiateur, finalement il n'avait rien d'autre à faire qu'à penser. Et il est reparti, moyen de protection pour lui, dans des souvenirs d'enfance auprès de son grand-père qui était horloger. Et cet homme-là avait eu dans son enfance l'envie de fabriquer des horloges. Et Dieu sait pourquoi, si j'ose dire, il n'avait jamais pu le faire. Et là, il s'est dit qu'il avait le temps. Donc finalement, il a, pendant ces 2 années-là, on va dire induit ce que nous on appellerait une transe hypnotique, pendant laquelle il a imaginé construire une horloge. Donc comme il n'avait aucune idée de comment faire, il s'est dit très logiquement qu'il lui faudrait un cadran, des aiguilles. Donc il a choisi dans sa tête quelle forme elles auraient, quelle matière, etc. Puis après il a essayé de réfléchir que derrière ce cadran, très probablement pour que les aiguilles tournent, il faudrait des ressorts, des engrenages, donc... Voilà, pour faire court, il a essayé d'imaginer tout le système, ça lui a pris 2 ans, il a fabriqué dans sa tête les pièces une par une, il les testait, il les changeait, enfin c'est un processus absolument incroyable. Et en sortant, puisqu'il était libéré au bout de 2 ans, cet homme-là qui était journaliste a eu une seule envie, un seul besoin on va dire, ça a été de construire son horloge pour de vrai cette fois, et miracle, encore une fois si j'ose dire, l'horloge fonctionne.
Les propos du docteur Frank Gardenbrech, hypnothérapeute et médecin urgentiste français. Il est l'auteur d'un travail sur l'adaptation psychologique aux prises d'otages. Fabien, c'est assez poétique, sans minimiser certainement les conditions difficiles de cet otage au Liban, mais concevoir intellectuellement une horloge qui fonctionne est quelque chose de poétique et presque forme de maîtrise sur, ou de relais à l'éternité aussi peut-être.
Oui, il y a une sorte de mise en abîme ou de métaphore de, du temps voilà, qu'il faut griller, qu'il faut passer. On construit une horloge pour le faire. Mmh. Oui, effectivement, c'est assez fort.
Merci Fabien pour ce dossier. À noter que vous avez placé différents liens sur la page de l'émission. La page de l'émission, je la rappelle, rts.ch/haute-fréquence.
Oui, tout à fait. Notamment vers lien vers l'entretien que Daniel et Françoise Larib ont accordé au magazine télévisé Faut pas croire. Donc l'occasion de réentendre son histoire avec d'autres détails que ceux qui ont été évoqués aujourd'hui. Puis j'ai mis également un lien vers le site du docteur Gardenbrech.
Merci. Je rappelle donc notre site rts.ch/haute-fréquence. Ainsi que le numéro de notre répondeur 058 236 60 70.
Drifting, dreaming, in and as your mood, stardust gleaming. Must be
C'est beau. La voix chaude d'Ella Fitzgerald pour une évasion de l'esprit avec ce titre Azur.